Grenoble, Alpes, Métropole présente Presse Citron.
Les offres.
Vous écoutez le projet Agora qui vise à réunir des réfugiés pour échanger sur leur accueil à Grenoble et réfléchir ensemble sur des pistes d'amélioration des services. Suivi de Cyril Anap, architecte et maître de conférences.
Bonjour, je m'appelle Shahad El Farhat, je suis syrienne, je suis membre de l'Agora.
Je m'appelle Jacques Mahomou, je suis guinéen et je suis membre de l'Agora.
Bonsoir à tous, je m'appelle Abdrahman, je suis étudiant à l'UGIA et également je suis membre de l'Agora. À l'Agora, nous faisons de la citoyenneté active, nous participons à la vie politique.
Hello, my name is Maria, I'm from Ukraine and we are first and foremost human.
Bonsoir à tous, je m'appelle Félicien Pombal. Je suis angolais, je suis membre de l'Agora. Nous voulons parler la parole des étrangers, primes arrivés et réfugiés.
Nous croyons qu'il existe beaucoup de choses positives sur le territoire pour les primes arrivants, mais on peut construire encore et proposer. On vous propose de construire avec vous.
Avec l'expérience vécue, des défis que certains d'entre nous ont vécu, et nous avons mis en place l'Agora justement pour que d'autres personnes expérimentent pas ce qu'on a vécu quand on est arrivé sur le territoire.
Il faudrait combattre la discrimination. L'Agora pourrait prendre part à la démarche de signaler des discriminations de la métropole pour faire entendre la voix des primo arrivés et trouver des solutions aux situations de discrimination avec la métropole, situation des étrangers, des résidents migrants âgés, des personnes sans enfants, des victimes de plusieurs formes de discrimination.
On a besoin d'être mieux accueillis. Nous voudrions que les personnes d'accueil et de services publics soient mieux outillés pour accueillir les primo-arrivants. Nous voudrions aussi améliorer les conditions d'accueil et d'information dans les mairies pour les primo-arrivants, comme formation des agents, mise à disposition de documentation. Nous voudrions qu'il y ait un espace physique d'assistante et un interlocuteur physique pour le site ANEF à la préfecture.
On a besoin de cours de français. Ce cours doit être bien adapté à nos besoins, à nos niveaux aussi, qui est adapté au niveau, par exemple, le AA, ADO, BA, BDO, qui est adapté aussi à l'âge et à nos compétences aussi, les écritures et l'oral. Et donc, on a besoin aussi le cours de langue française, adapté sur nos projets professionnels.
Je voudrais particulièrement vous dire merci de nous avoir donné la parole ce soir. Nous avons besoin d'un accompagnement vers l'emploi et on a besoin d'être mieux accompagnés. Une fois l'obtention du statut, et on a remarqué que c'était très très compliqué d'avoir accès à l'emploi. Notamment la discrimination pour obtenir de l'emploi. Et nous proposons qu'il y ait des CV anonymes pour lutter contre la discrimination. Nous voulons travailler avec les entreprises et mettre en place des cours de français dans les entreprises.
Nous avons besoin de plusieurs informations concernant les offres de logement et d'hébergement, comme on a y accédé, parce qu'on trouve plusieurs gens dans la rue, dans les situations précaires, parce qu'ils n'ont pas des informations de comment trouver un logement.
En fait, on a besoin d'être mieux informés sur tout qui nous concerne. Dans une langue qu'on comprend, on a besoin de traducteurs et d'interprètes. On a besoin de trouver l'information. Ça pourra être dans un lieu central, peut-être un site web, peut-être une application sur téléphone portable, affichage sur les lieux publics, sur les panneaux lumineux aussi, des brochures et des cartes physiques qu'on peut le trouver dans les lieux publics, par exemple de la métropole, soit de le lieu public qui est destiné aux réfugiés comme le ADA, ADAT, Apartheid, Luffy, etc. Alors, on a besoin de quelles informations sur nos droits et services. Par exemple, dans notre transport, on a besoin d'informations sur les tarifs solidaires et les tarifs pour les étudiants. Aussi, d'informations pour accès à la nourriture, Par exemple, moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le reste du corps, par exemple. Les démarches administratives aussi, on a besoin de plein d'informations. Comment on commence dans notre papier, notre démarche administrative ici en France. Information sur le système de santé, ça c'est nécessaire. Les offres culturelles et les activités sportives aussi. Il y a plein d'associations ici à Grenoble qui sont gratuites, qui offrent beaucoup d'activités sportives pour tout le monde. L'offre de logement, le réseau associatif hébergement solidaire, qui a le droit pour quel logement, ou déposer le dossier pour avoir un logement. Comme j'ai dit avant, on a besoin aussi d'informations sur les cours de français. Donc, où on peut trouver le cours, les centres qui donnaient le cours de français. On a aussi besoin d'informations sur le droit de travail et le syndicat. Et informations pour l'accès à l'emploi. Informations sur l'accès aux aides en attendant un emploi.
We need to have our place in the disposal of participation like other people at the metropole. And the Agora helped us feel like equal human and citizens and help us share an opinion.
Avec l'Agora, on a gagné de la confiance en soi par faire le cours prise de parole.
On a appris des choses sur la métropole, sur l'emploi, les logements et les démarches.
Pendant notre période de travail avec l'Agora, on a rencontré plusieurs réfugiés et ce soir, nous sommes là pour porter leur voix.
Merci, merci beaucoup pour ces témoignages. Et merci plus globalement à tous les membres de l'Agora qui ont beaucoup travaillé toute l'année. Merci aux représentants qui sont là ce soir pour porter leur voix. Ça a été un gros travail. Le groupe s'est réuni à peu près tous les mois avec des groupes de travail aussi entre les réunions. Donc ça a été un vrai engagement bénévole au service du bien commun et on vous remercie pour ça. C'était très riche pour nous de pouvoir bénéficier de vos expériences de vie, vos trajectoires de vie et tout ce que vous en avez appris. Donc, merci beaucoup. On va passer au retour sur le projet Must Lab, aux recommandations issues des laboratoires de l'hospitalité. Donc, Must Lab, c'est aussi un projet européen qui nous a permis d'expérimenter, de mettre en place une méthodologie de construction des politiques publiques qui permettait en fait d'asseoir, entre guillemets, autour de la table toutes les parties prenantes de la question de l'accueil sur le territoire métropolitain. Donc, on avait 10 représentants associatifs, 10 représentants institutionnels et 10 personnes réfugiées ou primo-arrivantes, dont des représentants de l'Agora, d'ailleurs, qui ont participé à Must Lab. Et donc, toutes ces personnes se sont réunies 3 fois 2 jours, avec aussi des groupes de travail qui ont travaillé entre les sessions. Et une spécificité de la méthodologie de Must Lab, c'est de travailler sur des expérimentations très courtes. Et donc, il y a 3 expérimentations qui ont été menées dans un temps très court et qui en ont sorti des recommandations. Les dernières journées de travail, c'était vendredi et samedi, là, donc c'est tout frais. Mais du coup, on va pouvoir vous raconter un peu ce qu'on retient de ces laboratoires.
Alors, il y a plusieurs participants des laboratoires qui sont ici avec nous ce soir. Je crois qu'il y a des volontaires qui vont prendre la parole tour à tour. Pour le cadre de la restitution, les participants des laboratoires ont choisi de dégager des principes communs à toutes les recommandations qu'ils vont faire pour améliorer l'accueil de territoire. Et ensuite, ils ont tiré un bilan des 3 micro-expérimentations avec des recommandations précises de traduction en action. Et ils ont aussi travaillé sur la maison de l'hospitalité, dont ils vont nous donner le contour de leur discussion, ainsi que d'autres sujets pour lesquels, vous vous rendez compte ce soir, on ne rentre pas dans les détails des recommandations, mais les élus recevront des choses très détaillées par la suite, à la fois de l'Agora et des laboratoires de l'hospitalité.
Alors, donc, les principes communs qui ont été retenus, c'était tout d'abord de demander l'avis aux personnes concernées. Ensuite, un constat, c'était le fait que les associations et les bénévoles ont un rôle essentiel dans l'accueil des nouveaux arrivants, aux côtés des acteurs institutionnels. Et enfin, la communication et la coopération entre les acteurs institutionnels et associatifs, elle demeure essentielle.
Merci. Je m'appelle Mamdou Al-Kouti, je suis un étudiant réfugié, je fais partie de l'Agora. Et sur ce territoire, j'ai passé par GEM, par Sciences Po, par Illugia. Et je fais partie aussi avec une très belle équipe, ils sont tous là, on a travaillé ensemble pendant 2 mois et demi sur cette micro-expériment. Aujourd'hui, je voudrais vous rencontrer l'histoire de Jean-Pierre. Un immigrant s'appelle Jean-Pierre. Jean-Pierre est un primo-arrivant qui n'est pas francophone. Et dès le moment qu'il a déposé sa demande d'asile et pendant son chemin d'intégration, il recevait les informations en compte-goutte, petit à petit. Et souvent tardivement. Cela a eu pour conséquence beaucoup de problèmes, des souffrances, de confusion et sentiment d'être perdu dans l'océan de démarches administratives. Cette confusion ici peut-être s'expliquer par cette réponse systématique par les services publics quand on demande une information. Toutes les informations sont sur l'Internet, mais aussi également car les informations sont souvent incomplètes et se retrouvent sur différents lieux, différents sites, différents endroits. D'autre part, certaines informations manquent et sont introuvables. Donc, comment on a arrivé à cette conclusion? Tout d'abord, parce qu'on a cherché les informations manquantes, parce qu'on a cherché les informations communiquées aux premiers arrivants dans le mauvais moment ou le mauvais endroit. Mais aussi parce qu'on s'intéresse aux informations qui sont introuvables, sauf par expérience, ou si quelqu'un proche peut nous renseigner. Comment on est arrivé à cette conclusion aussi? Nous avons consulté les parties concernées et nous sommes organisés en trois phases. On a cherché les besoins, on a croisé les informations existantes et on a rédactionné et validé nos conclusions sous en forme de table de matière dans guide complet et compréhensif pour les primo-arrivants. Ça va nous aider à centraliser les informations dans un seul guide, les informations, le retour des expériences des parties concernées, mais aussi les informations existantes. Le contenu de ce guide aura toutes les informations dont les premiers arrivants ont besoin d'eau. Pour mieux comprendre le système, l'administration, le procédure, et donc pour mieux intégrer et progresser dans la société. Notre équipe, comme je dis, ils sont tous là, ils sont motivés et prêts, avec votre soutien, à poursuivre ce projet et réaliser ces recommandations. Développer le contenu de le guide, développer le format, le guide sous plusieurs formats, en application, imprimé, sur l'Internet, sur papier, et aussi traduire le guide sur plusieurs langues et ainsi plusieurs formes en images, en vidéo et en audio. Et finalement, se travaillant avec vous, les élus, des citoyens et des élus, qu'on peut améliorer des vies, on peut améliorer l'accueil de l'inclusion et des personnes primo-arrivantes et on peut encourager et consolider la résilience. Merci.
Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis Johanna Salmeron, je fais partie de l'association Éclat, Ensemble créant du lien, aller vers après le trauma. Donc, j'ai eu l'occasion de faire partie de la micro-expérimentation, la formation des agents du service public à l'accueil. Donc, on est parti du constat initial qui est celui d'un besoin de formation des agents et agentes du service public à la notion d'accueil, à ce que ça signifie et ce que ça sous-tend l'accueil de personnes en exil. Et on avait le souhait de proposer un format différent de formation et on a retenu la ronde de parole, d'écoute et de lien qui est basée sur la méthode des thérapies communautaires intégratives dite TCI. Donc on a eu l'occasion de réaliser une ronde. Au départ, on souhaitait en réaliser deux, mais avec le manque de temps, on a pu en réaliser seulement une. 17 professionnels étaient présents. Il y avait des professionnels du domaine de la santé, donc des psychologues, des médecins. Il y avait également des travailleurs sociaux. Des agents d'accueil et une chargée de mission. Donc, en ce qui concerne nos recommandations, donc notre groupe de travail souhaiterait continuer ses travaux avec l'appui de la métropole. Donc, pour continuer de proposer des rondes de parole à destination des professionnels, mais aussi des bénévoles. Et pour ce faire, on aimerait se mettre en lien avec la Maison des habitants
du centre-ville de Grenoble qui propose déjà ce type de dispositif, et avec la particularité que les rondes, elles sont en mixité, c'est-à-dire qu'elles sont à destination de toute personne indépendamment de leur statut administratif. On souhaiterait également donc sonder les agents d'accueil des services publics sur leurs besoins en formation sur la notion d'accueil. Enfin, on souhaiterait continuer de favoriser la diffusion des méthodes de thérapie communautaire intégrative.
Moi, je suis là pour vous parler du parrainage vers l'emploi. Je m'appelle Joëlle Cuisera, je suis réfugiée politique. Sur cette partie de parrainage vers l'emploi, on l'a fait pour aider les nouveaux arrivants pour obtenir du travail. Dans le déroulement du groupe, on avait les candidats et les parrains, parrains, marraines. On a commencé par chercher les candidats qui aimeraient travailler pour les aider à trouver du travail. Et aussi, il y avait une partie de parrainage qui nous a aidé à trouver les parrains et marraines pour nous accompagner dans la recherche du travail. Dans ce groupe, l'objectif, c'est de faire un échange avec le parrain et le candidat ou le filleul pour l'aider, comment trouver du travail ici. Déjà, comme c'est des nouveaux ici en France, c'est compliqué, c'est pas facile. Il faut quelqu'un qui puisse accompagner. On a vu que dans cette expérience, même les membres qui ont commencé avec nous pour commencer l'activité, il y avait déjà deux ou trois qui ont pu trouver du travail. Du coup, on a vu que c'était une bonne chose pour les nouveaux arrivants et qu'on peut continuer dans son sens.
En fait, il y a des groupes de parrainage qui existent. Celui-ci, il est différent parce que les volontaires, on les appelle plutôt des volontaires. Si j'avais relu la diapo, j'aurais écrit volontaires et mentors parce que c'est plutôt cet esprit. Donc, les volontaires ont trouvé les autres volontaires. Donc, c'est de la cooptation. Du coup un réseau qui est auto-animé. Et en fait, on n'a pas du tout d'ascendance du parrain sur les filleuls, ce qu'on trouve parfois assez logiquement, celui qui sait où aller taper aux portes, celui qui a le réseau et celui qui a besoin. Là, ce n'est pas ça du tout l'esprit. L'esprit, c'est que ça s'est constitué de façon assez spontanée, chacun cherchant le volontaire qui avait besoin effectivement d'informations et d'un mentor. Et puis moi, ma mission, c'était plutôt de rechercher les mentors. Et là aussi, on n'a pas prospecté comme d'habitude. Il y a des réseaux qui existent et qui sont très performants. On a le réseau des entreprises inclusives, on a le réseau Sans Chance. D'ailleurs, ça s'est articulé, on est allé aussi présenter le projet. Mais en fait, ce sont plutôt des personnalités qui étaient intéressées par justement cet équilibre de la relation entre le mentor et le volontaire. Donc ça a donné autre chose. En fait, ça a donné... Alors, beaucoup sont absents aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de proximité et de liens. Donc tout le monde a le Covid là aujourd'hui. Mais on s'est vu la semaine dernière. Ça a donné beaucoup de solidarité et des conseils entre les volontaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le mentor qui donne des conseils aux volontaires du binôme, mais c'est aussi les volontaires entre eux qui se donnent des conseils, et des conseils qui sont ultra intéressants parce que c'est un travail entre pairs qui est très, très valorisable, en fait, et donc qui redonne confiance et qui, en fait, hisse d'emblée la personne à un niveau d'équilibre avec le mentor, et du coup plus en capacité probablement de soutenir un entretien de recrutement et de convaincre. Et donc effectivement, il y en a déjà trois qui sont au travail, et puis les autres qui sont rapidement en situation très certainement sur janvier. Donc voilà pour compléter sur les recommandations. Alors qu'est-ce qu'on a noté? Mettre en place un poste de coordination pour le programme de parrainage. Alors, il y a plusieurs réseaux existants. De notre point de vue, c'est maintenir l'expérimentation. Naturellement, elle se maintient parce qu'il y a vraiment envie entre les volontaires et les mentors de se revoir, de trouver d'autres candidats, de communiquer largement sur le programme, mais aussi communiquer sur les réussites, de façon à ce que, naturellement, il y ait d'autres volontaires qui puissent candidater. mobiliser les réseaux d'entreprises de façon très transversale, hein, les entreprises inclusives, sans chance, sans emploi, et puis là, ce réseau qu'on est en train de monter où les mentors étaient dans aucun de ceux-là. Et puis mobiliser les acteurs locaux pour trouver d'autres candidats, d'autres volontaires. Et là, c'est intéressant aussi parce qu'en fait, on a souvent des volontaires qui sont déjà suivis par le service public de l'emploi, etc. Et là, en fait, ce sont des volontaires qui sont arrivés d'autres réseaux qui n'étaient pas connus. Donc là aussi, je trouve que ça, c'est particulièrement intéressant. Et puis, dernière chose, on a contacté une mentor qui est par ailleurs prof à la fac, donc qui dirige une structure d'insertion et qui est par ailleurs prof à la fac, et qui nous a dit « Mais moi, j'ai très envie de présenter le programme à mes étudiants de l'économie sociale et solidaire, et peut-être qu'eux, ils auraient aussi envie d'être mentors ou volontaires. » Donc voilà, c'est l'épisode 2 2024, probablement, de notre groupe. Voilà.
Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Morgane Seck, je suis chargée de projet hospitalité à la ville de Grenoble. Et donc, pour ces journées des 15 et 16 décembre, nous n'avons pas que travaillé sur les micro-expérimentations, mais aussi sur la maison de l'hospitalité. Donc, on avait un cadre proposé par la métropole avec trois grandes consignes. Donc, premièrement, que l'accueil devait être inconditionnel. Ça fait le lien avec le troisième point, donc que ce soit aussi un lieu qui soit sécurisé pour tout le monde, quel que soit son statut, quel que soit son sexe, quel que soit son genre. Et c'est un lieu qui ne devait pas présenter de caractéristiques d'hébergement. Donc à partir de ces trois consignes, on a commencé à phosphorer en groupe sur différentes thématiques. Donc ces trois grandes caractéristiques sont le fonctionnement et la gouvernance, les espaces et activités et les lieux. Donc on a déterminé plein de petits points tous ensemble en petits groupes. Et après, on était invités à venir mettre des points bleus sur ce qui nous semblait vraiment important. Donc ça, c'était une étape plus individuelle. Et de là sont ressorties certaines caractéristiques prédominantes. Donc en sachant que pour le fonctionnement et la gouvernance, un gros point a été souligné sur le fait qu'il faudrait que ce soit une gouvernance tripartite. Donc avec les institutions, les associations, mais aussi les personnes concernées. Donc avec un point qui a été souligné sur effectivement cette participation des personnes concernées, qui semble vraiment importante. Que les travailleurs devraient également être des travailleurs pairs et des salariés. Pour le lieu, il y a deux points qui ont retenu l'attention. Le premier, c'est que la localisation devrait être principalement donc en centre-ville, si possible. Et la question de l'accessibilité, donc par les réseaux de transport de la ville a semblé également très important. Maintenant, il faut aussi tenir compte pour le lieu de tous les espaces et activités qu'on souhaiterait mettre prioritairement. Donc en sachant que quatre points bleus ont été mis sur l'interprétariat, qui semble un point très fondamental. Après, on a déterminé que ce serait très intéressant que ce soit un lieu d'orientation et d'information, mais aussi un lieu de rencontre, de sociabilisation et d'écoute. Donc qu'il puisse notamment y avoir une cafétéria, un jardin partagé, des espaces où on puisse partager nos savoir-faire. Il faudrait également que ce lieu soit un lieu d'aide aux démarches, de conseils également administratifs et juridiques, mais aussi un lieu culturel et interculturel avec des intervenants, des artistes en résidence et une scène ouverte. D'autres points qui étaient un peu moins essentiels peut-être, qu'il y ait un espace enfant pour permettre de faire ces démarches en toute sérénité, mais qu'il y ait également un espace sport et détente, que ce soit un lieu de ressources avec des professionnels, et des personnes concernées, et également un lieu de permanence. Donc avec les associations et les services publics type CAF, OFI, TAG pour les réseaux de transport en commun, la Banque Postale, la CPAM et les soins et la santé.
Et nous allons donner la parole à Monsieur Cyril Anap, qui va nous parler d'hospitalité urbaine et comment on la construit à l'échelle de notre métropole.
Oui, bonsoir. Vous me faites beaucoup d'honneur. Et puis là, je suis très, très impressionné par le travail que je viens de voir sur cette maison de l'hospitalité à Grenoble, métropole. Moi, ce que je vais vous montrer, finalement, c'est juste une actualisation d'un travail qui avait été fait il y a quelques années, où l'idée, c'était de se donner des outils d'évaluation des pistes de travail et des outils d'évaluation et d'auto-évaluation qui permettent de se donner des pistes. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs un peu tout à l'heure en atelier tous ensemble. Les migrants, les personnes qui arrivent dans une ville, c'est toujours une chance pour les villes. Elles transforment les villes et inversement, les villes les transforment. Alors j'aime bien revenir sur une phrase d'Henri Lefebvre qui avait parlé du droit à la ville, qui avait fait un ouvrage qui avait marqué à l'époque, et où il y avait cette phrase justement où il comparait le citadin et le citoyen. Finalement, ces termes se trouvent redéfinis au sein des villes. Alors, Grenoble, d'ailleurs, a une longue tradition justement de qualification et justement sur le travail de cette différence entre le citoyen et le citadin. Et donc, voilà, j'aimais cette phrase. Être citoyen, cela voulait dire séjourner longuement sur un territoire. Or, dans la ville moderne, le citadin est en mouvement perpétuel et les rapports sociaux tendent à devenir internationaux en raison des phénomènes migratoires et de la multiplicité des moyens techniques de communication et de la mondialisation du savoir. N'est-il pas nécessaire de reformuler les cadres de la citoyenneté ? Le citadin et le citoyen doivent se rencontrer sans pour autant se confondre. Le droit à la ville n'implique rien de moins qu'une conception révolutionnaire de la citoyenneté. Alors, ça, c'est un petit tableau que j'ai fait. On y reviendra peut-être juste à la fin, parce que c'était un peu un point sur toutes les choses. Alors, ça, c'est les outils que j'avais mis en place pour la ville accueillante, qui ont l'avantage d'être ouverts. Ça, c'est un très vieil outil qui a été inventé dans les années 1940, je pense que vous le connaissez tous, qui s'appelle la pyramide de Maslow. Ça avait été pensé par les Américains, donc dans les années 1940, ça a très bien marché pendant un moment, et donc ça repose sur l'idée que on a différents besoins et que pour accéder aux besoins supérieurs, on doit avoir comblé le besoin du dessous. Donc le premier besoin qui avait été défini, c'est les besoins physiologiques, faim, soif, survie, sexualité, repos, habitat. On passait ensuite aux besoins de sécurité, se sentir en sécurité, faire confiance, puis le besoin d'appartenance, être aimé, écouté, compris, estime des autres, faire partie d'un groupe, avoir un statut. Avant-dernier étage, le besoin d'estime. Et enfin, le besoin de s'accomplir, sentiment d'être utile et d'avoir de la valeur, conserver son identité. Alors ça, c'était quelque chose qui avait peut-être du sens pendant, on va dire, la deuxième moitié du XXe siècle ou au milieu du XXe siècle, parce qu'il y avait un niveau de formation, d'accès à la connaissance des gens qui était très inégal. Et donc, on pouvait considérer que certaines personnes, peut-être, n'avaient besoin que d'atteindre un certain niveau. Alors bien sûr, tous dans cette salle, on regarde cette pyramide et tous, autant qu'on est, on se dit « oui, mais moi, je suis en haut, c'est le besoin de s'accomplir ». Et donc, c'est pour ça qu'il y avait un groupe de chercheurs qui a travaillé sur des critères différents, ou plutôt sur les mêmes critères, mais en disant simplement « mais ce n'est pas une pyramide, tous ces besoins, en fait, c'est un cercle ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce pour plein de raisons, notamment un accès à la connaissance qui est généralisé très heureusement pour tous, aujourd'hui, on a les besoins physiologiques, mais on a aussi toute une série de besoins psychologiques qui doivent être comblés de la même manière et assurés de la même manière. C'est-à-dire que trop souvent, dans l'accueil en France traditionnelle, on va se contenter de dire « ah ben je vous assure des besoins physiologiques ». Toujours aujourd'hui, il y a des centres qui s'ouvrent où les centres d'hébergement classiques de l'État vont un peu marcher sur ce truc où on vous donne ces deux premiers niveaux et on va considérer que c'est OK. Et en fait, ces centres-là ont des gros problèmes de fonctionnement. Souvent, je reprends cet exemple qui avait eu lieu à Calais, dans la jungle de Calais, où il y avait quand même 10 000 personnes qui vivaient. Le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, avait dit « ah ben, on va construire un centre d'accueil humanitaire qui va être parfaitement aux normes, dans lequel les gens seront chauffés, il y aura des salles d'eau chaude, il y aura des lits au chaud. » Et ça va être beaucoup mieux. Et donc, il y avait eu ça avait coûté 12 millions d'euros. Ils avaient créé tout un centre en conteneur blanc très sophistiqué. Et à leur grande surprise, quand ils avaient ouvert ce lieu, absolument personne n'avait voulu venir dedans. Tout le monde avait préféré rester dans la jungle de Calais. Et donc, en fait, tout simplement parce que
il pensait que assurer ces deux niveaux était bien. Et non, en fait, il fallait. Les gens ont besoin d'être reconnus. Les gens ont besoin qu'on ait un regard sur eux, de savoir où ils sont, d'avoir une cohérence, une vision de la cohérence de ce qu'ils font. Alors, c'est un groupe de chercheurs indépendants qui a défini ces besoins. C'est des critères, on l'a fait tout à l'heure en atelier, qui demandent à être affinés. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière la réflexion? C'est un travail collectif à faire en participation avec tous les acteurs concernés, qui vont justement des personnes accueillies quelque part même aux décideurs politiques ou aux bailleurs de fonds, aux financiers, etc. Mais tout ça, c'est des choses qui doivent se décomposer en tableaux précis. Alors, du coup, moi, j'avais un peu fait un travail avec nos équipes. On avait fait un travail sur des modalités d'accueil dans la ville qu'on avait justement essayé d'évaluer par rapport à différents critères. Alors, ça avait été défini au moment de la jungle de Calais, mais c'était sécuriser les quartiers spontanés. Alors, il y a les critères de Stevenson et puis on avait aussi pris les critères classiques du développement durable. Alors, vous voyez que là, justement, c'est des critères qu'on avait redéfinis au cas par cas par rapport à d'autres données. Donc là, on avait pris les classiques économiques, écologiques et sociales. Vous connaissez l'histoire de ces trois cercles qui doivent se rencontrer. Et quels critères on pouvait faire par rapport à ça et comment ils se définissaient. Et on va dire qu'on les avait utilisés sur les différents points et on va voir qu'il y en a qui sont plus ou moins efficaces. Bon, ça, c'est l'exemple le plus connu, c'est à Medellín, en Colombie, où maintenant, ça fait 20 ans qu'il y a une politique où ce grand quartier qui était une favela, on a amené un téléphérique et toute une série d'équipements dans le quartier. Il y a toute une série d'équipements, des cheminements propres, etc. Alors ça, c'est en Colombie. Plus près de nous, à la Martinique, ça, c'est un quartier qui avait été rendu célèbre en 1992 par un roman qui s'appelait Texaco. Et il y a le monsieur qui est maintenant à la tête de la communauté territoriale de Martinique, qui s'appelle Serge Letchimi, qui avait défini dès les années 80 cette nécessité, cette possibilité de transformer les bidonvilles en des quartiers. Et c'est, vous voyez que là, on a un quartier qui est en plein centre-ville, qui est devenu un quartier classique et qui n'est plus du tout sur les marqueurs classique des bidonvilles. Cette problématique, elle se retrouve tout le temps. Ça, c'est un travail qu'on fait à Mayotte actuellement, justement. Je ne sais pas si vous suivez, mais on a des problèmes extrêmement compliqués d'insécurité et d'accès à l'eau. Et à chaque fois, les problèmes, c'est l'insécurité et l'accès à l'eau et la pauvreté. Mais les élus décalent le problème et vous parlent toujours, par exemple, des bidonvilles. Ils disent « Ah, il faut qu'on détruise les bidonvilles, il faut qu'on détruise les bidonvilles. » Mais en fait, à chaque fois qu'ils détruisent un bidonville, ils augmentent encore les problèmes de pauvreté, ils augmentent encore les problèmes d'insécurité. Et donc là, il y a quelques endroits à Mayotte où il y a des quartiers qu'on arrive à transformer. Deuxième outil, bah alors ça va visiblement, vous connaissez bien maintenant, des maisons du migrant dans la ville. Donc ça avait été pensé à Grande-Synthe, c'était un réseau de petites maisons qui étaient insérées dans la ville. Les exemples, alors peut-être que justement c'est plus décentralisé, il y en a qui doivent connaître ici, c'est les terrasses solidaires à Briançon. C'est toute une série de lieux d'accueil maintenant qui s'inventent sur le territoire français, qui ne sont plus nécessairement dans les villes. Là, j'ai des exemples qui sont dans les grandes villes, mais je voyais tout à l'heure, lisons le Neveleur, qui le fait dans des territoires plus ruraux. Il y a une ville qui s'appelle Lorme, dans la Nièvre, comme ça, où pareil, il y a des lieux d'accueil qui se font dans le Morvan, il y a dans les territoires. Ça, c'est l'auberge marseillaise, une ancienne auberge de jeunesse qui a été transformée en lieu d'accueil. Alors effectivement, il faut qu'il y ait toute une série d'acteurs qui aillent avec. En l'occurrence, à Marseille, il y a une association qui s'appelle Just, Justice et Union pour la transformation sociale. Il y a un collectif festif un petit peu qui s'appelle Yes We Camp qui arrive en fait à relier ces lieux au quartier. C'est-à-dire que à chaque fois, ces lieux sont pour les personnes accueillies, mais aussi pour les personnes des quartiers. Notamment, il y a toujours des concerts, des cafés, un café qui est ouvert. Ça, c'est chez Cédric Héroux, Justement, ce n'est plus chez Cédric Herrou, justement, c'est une collée. Maintenant, c'est une communauté Emmaüs qui s'appelle Emmaüs Roya. Et donc, c'est une ferme. À l'origine, c'était la ferme d'une personne, mais maintenant, c'est une communauté Emmaüs qui accueille un grand nombre de personnes. Alors, on change d'échelle. Ça, pareil, c'est ce qui avait été fait à Grande-Synthe. C'est des ensembles plus grands. Ça, c'est le centre d'hébergement dans le 16e arrondissement qui avait fait beaucoup parler de lui quand il avait été ouvert en 2016. Je lisais ce matin dans le journal qu'il avait été ouvert pour 2 ans, extensible à 3 ans à l'origine. On est en 2023, il est toujours là. Et Yann Brossat, l'élu au logement de la ville de Paris, qui est aussi maintenant sénateur, annonçait ce matin dans le Parisien qu'il voulait doubler ce lieu. Ce lieu, il a une particularité, c'est qu'il a été construit pour être démontable, transportable, etc. Mais en même temps, il a été pensé pour durer. C'est une architecture qui est à la fois pérenne et démontable et transformable. Et donc c'est ça qui lui permet cette bonne intégration. Alors qu'il avait été extrêmement mal accueilli par les habitants du quartier, qui avaient même essayé d'incendier le lieu pendant le chantier 2 fois, il est maintenant très bien accueilli dans le quartier. À chaque fois qu'il y a des interviews, etc., dans le quartier, les gens sont très heureux d'avoir ce lieu. Donc ça peut fonctionner. Ça peut aussi être... Alors ça, c'est sur l'île de Lesbos, en Grèce. C'est un ancien camping qui avait été transformé en lieu d'accueil. Donc vous voyez, à Marseille, on a une ancienne auberge de jeunesse. Là, c'était un camping qui avait été transformé en lieu d'accueil. Après, c'est plus classiquement, c'est habiter les bâtiments tertiaires délaissés. L'économie ne cesse de se réinventer. Et les lieux d'accueil du travail ne cessent également de se réinventer et de se transformer. Et donc, ça, c'est des options qui existent. Il y en a une, c'est toujours à Marseille. Ça s'appelle Cavagnac. C'est des anciens bureaux sur lesquels Just et Yes We Camp travaillent également sur la transformation des lieux. Ça avait été aussi à Paris, et ça avait fonctionné jusqu'à il y a 2 ans. Et puis enfin, bien sûr, penser des maisons d'accueil proprement dites. Ça, c'est des bâtiments qui sont entièrement dédiés à l'accueil, mais qui peuvent néanmoins être transformés. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez que l'idée, c'est que le bâtiment, c'est un bâtiment neuf, mais il est considéré comme évolutif et transformable. Typiquement, ici, c'est une résidence hôtelière, mais la trame, l'épaisseur du bâtiment avait été pensée dès l'origine pour que ça puisse devenir des logements classiques ou un immeuble de bureaux. Et ça, c'était à Stuttgart. Pareil, c'était une association. Il y avait eu un petit travail sur l'architecture des lieux qui avait été fait en décalant ces balcons pour que les gens puissent se parler d'étage en étage, de balcon en balcon. Pour conclure, je vais juste revenir sur cette image-là, sur un petit panorama des lieux d'accueil en France aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la ville accueillante en 2023? Il y a quand même, il faut en parler, l'hébergement officiel sur lequel il faut continuer à travailler. Les places, l'État est critiquable pour plein de raisons que vous connaissez tous dans cette salle, mais il y a quand même 204 000 places d'hébergement officielles qui existent en France. Mais bon, on sait qu'il y a toute une économie qui fonctionne avec, une certaine opacité. C'est toujours les grands acteurs qui reviennent, qui s'appellent Aurore, qui s'appellent SOS, qui s'appellent Emmaüs. Il y a un quasi-monopole de ces acteurs et qui gèrent tous ces lieux d'accueil qu'on appelle CHRS, CHU. Les hôtels font partie du système, les centres d'accueil des demandeurs d'asile, etc. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ils ont beau créer des places, c'est vrai qu'il y a plus de places d'hébergement qu'il n'y en a jamais eu, mais où on voit que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a néanmoins de plus en plus de personnes à la rue, hein, puisque ça a augmenté, on l'a vu, de 40%. Il y a une augmentation sur un an de 40% des personnes à la rue. Donc par rapport à ça, vous voyez que là, il y a un petit panorama de lieux d'accueil qui existent en France. Ça peut commencer par exemple au Pays Basque, où il y a des réseaux collectifs basques qui ont réussi à inventer une maison du migrant qui s'appelle POSA, qui est gérée par la mairie. À Calais, par contre, rien ne va. Ça, c'est un des endroits les pires de France actuellement. L'Observatoire des expulsions a noté qu'il y avait eu 1900 lieux expulsés depuis février 2022 et 16 000 personnes expulsées. Donc là, on est dans un cas absolument terrible et dans une maltraitance absolue des personnes. Toujours dans les lieux qui existent, il y a la Roya, on a parlé. Briançon, alors les terrasses solidaires ont des gros problèmes puisqu'elles sont prévues pour 60. En août 2023, il y avait 200 personnes. Mais globalement, c'est un système qui fonctionne. À Paris, ça marche très très mal. C'est encore aujourd'hui, il y a eu des expulsions de mineurs massives. Donc il y a 3 000 mineurs, ça vous le savez, à la rue, dont 700 qui ont moins de 3 ans
en France et les deux tiers qui sont à Paris. Alors on a des choses comme ça, il y a eu des maternités qui deviennent des CHU de fait, des centres d'hébergement de fait, mais il y a quelques petites initiatives comme des bagageries qui sont créées, qui fonctionnent. Mais globalement, à Paris, c'est des stratégies d'invisibilisation, c'est-à-dire qu'ils laissent zéro lieu de fixation, tout est détruit et avec une violence extrême. Bon, à Mayotte, il y a juste un bidonville qui est en train d'être transformé en quartier. À Marseille, c'est un endroit où il y a une belle dynamique qui s'est mise en place grâce à un tissu associatif assez puissant qui fonctionne à cette articulation de Yes We Camp, de Just. Et puis, par exemple, l'AUP, l'Association des usagers de la PADA, qui ont réussi à créer un CADA autogéré. Donc ça, c'était une grande première en France. Mais il a fini par fermer pour d'autres raisons. Mais il a fonctionné pendant plus d'un an très bien. Voilà. Alors l'Envita, y a pas mal d'acteurs qui sont là, donc avec les initiatives. Et je signale une dernière chose, c'est Toile. Vous pouvez le trouver sur Internet. C'est un réseau des maisons accueillantes qui commence à se mettre en place. Il y a 20 projets d'accueil. Par exemple, la Maison Solidaire à Saint-Étienne, Rosemerta à Avignon, la Maison Sésame à Grande-Synthe. Il y a quand même un certain nombre de lieux d'accueil indépendants qui sont en train de se mettre en place. Et voilà ce que j'avais à vous dire.
Et donc bientôt, on rajoutera la métropole de Grenoble sur ton schéma. Merci beaucoup Cyril Hanap.
Vous venez d'écouter le projet Agora ainsi que Cyril Hanap, architecte et maître de conférences. Retrouvez les autres conférences sur grenoblealpesmétropole.fr.